Vous écoutez France Culture.
Donc Olivia, nous sommes ensemble. On est toujours mariés ce soir.
À la vie, à la mort, oui, jusqu'au bout.
Émission Soft Power et dimanche et après mêlé tout en un, spécial salon du livre, en public depuis le salon du livre de Paris à la porte de Versailles. Donc seconde partie de cette émission spéciale au salon du livre. On reste sur des problématiques que vous venez de traiter, Olivia Gisbert.
Et on va aller vraiment clairement avec vous dans le fond du sujet sur le numérique. On va pas avec ces bouleversements.
On va pas dans le fond avec
nous.
Nous,
on a survolé. Maintenant, vous approfondissez.
Vous faites l'avenir et nous, en fait, après les pratiques de lecture des Français, le futur et de l'état de l'édition, nous, on va s'intéresser dans cette deuxième partie de cette longue tranche ce soir. Depuis le salon du livre, on va s'intéresser aux usages, aux nouveaux usages numériques et notamment les tablettes et les e-books. Avec vous, Olivia Gisbert, qui est restée pour cette émission. Agnès Chevaux, qui nous a rejoint.
Bonsoir.
Bonsoir. Et on reste ensemble Olivia. Jusqu'à 20h. Et de nouveaux invités nous rejoignent à cette table. Alban Cerisier, secrétaire général des éditions Gallimard et Flammarion, désormais mariés eux aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes aussi président de la commission numérique du syndicat national de l'édition, le SNE, qui organise d'ailleurs ce salon du livre.
Exactement, et des assises du livre numérique vendredi dernier.
À côté de vous, Guillaume De Citre, président du groupe De Citre. Bonsoir.
Bonjour.
Vous avez reçu d'ailleurs il y a 2 années. On verra sur ces 2 années comment les choses ont évolué et comment vous vous adaptez vous-même, à la fois comme libraire, mais aussi comme acteur du livre numérique à ce secteur. Deux concurrents sont à vos côtés, concurrenteux au féminin en l'occurrence. D'abord, sans ordre, on ne suit même pas l'alphabet d'ailleurs, Marie-Pierre Sangouard, directrice du Kindle, l'ennemi numéro 1 en France, c'est-à-dire Amazon, bonjour.
L'ami des livres en tous les cas.
L'ami des livres. Le Kindle avec un K et à côté de vous avec un autre K, le Kobo, qui pour le coup appartient à une société canadienne, je crois, qui elle-même appartient au géant japonais. Et la FNAC distribue en France le Kobo, c'est bien ça?
La FNAC qui distribue et qui en direct vend les e-books sur son site.
Voilà, Elodie Pertuisseau pour Kobo. Et donc là, nous avons un premier volet, si on peut dire, avec plusieurs acteurs importants du livre numérique. Puis nous rejoindrons dans la seconde partie de cette émission le responsable de Bookin, celui de Pocketbook. On aura aussi immatériel.fr, Immanence et Debook. Donc vous voyez un panorama complet, c'est presque une agora de livres numériques autour de nous. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque nous sommes au Salon du Livre de Paris, à la Porte de Versailles. Et juste devant nous, eh bien, il y a le Kindle, il y a le stand de lecture Amazon, la lecture numérique, il y a le Pocketbook, il y a Immatériel, il y a Bookin. Donc tout un tas d'acteurs de ce secteur. Je vous propose peut-être de commencer cette émission avec, un tout petit peu de rappeler ce que sont les choses et quelles sont les différences fondamentales dans un secteur très complexe, parfois à décrypter, qui pèse entre 1 et 1,5%, de l'ordre d'1,2 en France. Donc c'est un petit poussé, comme le disait un article récent, mais qui fait beaucoup parler de lui, à Alban Cerisier. Que représente ce chiffre pour vous? 1,2%, c'est peu. Et c'est quoi? On pourrait commencer par évoquer la différence entre les liseuses, dont on va reparler, et puis les e-books et les tablettes, les tablettes qui ne sont pas exactement pareilles.
Oui, c'est vrai que le chiffre paraît peu. Après, il faut regarder peut-être plus précisément au titre quelle peut être la part du numérique aujourd'hui sur certains titres. Et on atteint plus facilement les 4, 5, 6%, voire sur des titres du fonds récent, beaucoup plus encore.
Donc, en fonction des niches, vous voulez dire?
Et même des livres, même plus que des niches. C'est vraiment en fonction des livres, des titres. Et il faut aussi pouvoir comparer des catalogues qui ne sont pas encore aujourd'hui les mêmes en termes de nombre de titres disponibles. Ce qui fait que ce chiffre-là, global, il paraît tout petit. Il concerne la littérature générale essentiellement. Et il met de côté l'édition scientifique, où là, la part du numérique est beaucoup plus importante. mais il représente quand même un volume des lectures et des lecteurs nombreux.
Et une progression aussi.
Et une progression très forte. Nous, on a créé une société de distribution de livres numériques pour pouvoir permettre à l'ensemble des détaillants, libraires, opérateurs de pouvoir vendre ces livres. Aujourd'hui, cette année, on a atteint 1 million de livres vendus, ce qui à l'échelle de la plateforme de distribution, ça commence à être des chiffres non négligeables. Bon, sur certains titres, on atteint les 10 000, voire les 20, 25 000 exemplaires au titre. Donc c'est quand même très présent et ça nous occupe beaucoup de fait.
Mais ce pourcentage dont on voit bien qu'il est en hausse quand même depuis quelques années, il est quand même très loin de celui des États-Unis où on parle de 20% en moyenne des ventes du livre. Comment vous expliquez quand même ce retard français ?
Alors, je vous laisse la responsabilité du terme de retard, de décalage peut-être. Puis il y a tout simplement, il faut déjà demander au lecteur. Enfin, c'est assez simple. D'ailleurs, on le fait au niveau du syndicat. On a une étude qu'on mène, un baromètre, pour suivre au plus près les comportements.
Vous pensez que c'est culturel ?
Alors, il y a un élément culturel absolument fondamental. Il y a un élément politique qui est lié aussi à la régulation. Il y a un phénomène strictement commercial, c'est celui de la présence et du tissu des libraires en France, qui rendent le livre est présent partout, parmi tous. Hein. Et évidemment, ce sont des éléments de protection du livre imprimé de fait qui est dans notre quotidien et qui se défend très bien par lui-même. Pour autant, il n'y a pas de réticence. Hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre de la part, en tout cas, des éditeurs, des ayants droit. Je pense vraiment pas.
Des lecteurs ?
Et alors, des lecteurs, en tout cas, leur niveau d'appétence, lui, si on leur demande, n'est pas si élevé que ça. Hein. Dans la dernière étude, il y a 15% des Français qui prétendent avoir lu un livre numérique l'année dernière, et ceux qui veulent le faire sont très peu nombreux, qui envisagent de le faire, je crois que c'est de l'ordre de 7-8%, donc c'est encore très, très faible, et 75% d'entre eux ne veulent pas le faire. Donc on est aussi devant une réalité de la demande.
Olivier Gesbert.
Sur cette idée du retard ou pas à rattraper, appelez-le comme vous voulez, est-ce que vous pensez que ce petit chiffre aujourd'hui est amené à grandir très vite et d'un coup, est-ce que ça va être très progressif ? Quelles sont vos prévisions ?
Très vite et d'un coup, je ne pense pas. Je pense qu'on est plutôt sur une progression assez progressive. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur ces derniers mois. Alors, il peut y avoir des phénomènes que je ne connais pas aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une croissance qui va être progressive dans les 5 ans qui viennent, avec des éléments de stabilité très, très forts et d'équité très forts, qui est la régulation sur le prix du livre. Hein. Tous les revendeurs aujourd'hui ont accès aux offres dans les mêmes conditions. Voilà, donc c'est un élément aussi de croissance raisonnée, raisonnable.
Hein, des lecteurs de livres numériques, selon l'étude que vous avez, que vous pourrez citer, puisque je la vois juste à côté sur la table.
Faite par le SNE
avec la SOFIA.
Indique souhaiter, évidemment, que les prix des livres numériques soient plus accessibles. Il semblerait quand même, d'après les différentes études que j'ai pu lire, que le prix du livre numérique reste encore un facteur de blocage par rapport à son expansion. C'est-à-dire qu'on estime que finalement, acheter un support numérique à 30 ou 20% moins cher que le support papier, c'est pas juste.
Alors aujourd'hui, c'est effectivement plutôt de l'ordre de 30%. Je peux vous donner un ordre d'idée. Le prix moyen des ventes sur 2013, là encore au niveau d'une plateforme de distribution comme Eden Livre, qui regroupe 250 éditeurs, c'est 8,40 €. Je ne suis pas sûr que 8,40 € ce soit un prix totalement inaccessible pour.
Sans parler de tous les livres gratuits qui sont dans le fond.
Je ne parle pas, je compte pas là-dedans les
livres. Et sans parler le piratage, qui est un autre débat sur lequel nous allons revenir. Ouais. À côté de vous, Guillaume de Sitre, qui est au fond, vous êtes dans les deux mondes, à la fois un éditeur connu, un libraire connu qui vendait des livres en France, et par ailleurs un acteur aussi du numérique. Au fond, quel est le de Sitre qui va évoluer ? Comment est-ce que vous faites fonctionner vos deux mains, finalement, vos deux...
J'ai une main gauche et j'ai une main droite, vous voyez, elles fonctionnent toutes les très bien. En fait, nous, ce qu'on constate, c'est... contrairement à ce qu'on peut entendre, un petit peu un manichéisme qui essaie d'opposer le livre papier avec le livre numérique ou les magasins avec Internet, la plupart des clients, maintenant, ils veulent tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils ont envie de venir en magasin et puis d'acheter des livres et discuter avec des libraires. Il y a des moments où ils ont envie d'aller sur Internet. Il y a des moments où ils veulent du papier. Il y a des moments où ils veulent du numérique. Donc, en fait, tout l'enjeu, en tout cas pour De Sitre, c'est de constituer une expérience client qui soit exceptionnelle avec aussi bien des libraires que des outils Internet pour que on s'adapte effectivement à ses clients, à cette demande de clients, aussi bien dans un monde papier, dans un monde numérique. Et de fait, aujourd'hui, on vend à peu près 6 millions de livres par an.
Dans vos librairies, dans les
papiers, aussi bien dans nos librairies que sur Internet, que en numérique. On voit indéniablement une croissance importante du livre numérique. C'est pour ça que j'ai créé il y a 3 ans avec 2 autres personnes, on en parlera je pense tout à l'heure, une initiative qui permet à tous les acteurs de la chaîne de vendre du livre numérique dans un modèle ouvert.
TIA, TEA.
T-E-book alternative, absolument, qui permet en fait aussi bien des petits libraires qu'à des sociétés comme DeSite, qu'à des très grandes enseignes comme Système U, de vendre du livre numérique dans un modèle qui permette, comme on le fait dans le papier, d'être ouvert. Je voudrais revenir quand même quelques secondes sur la notion de montée en puissance du livre numérique. Il y a encore 2 ans, l'essentiel de l'offre de livres en France n'était pas sous format numérique. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il ne se vendait pas de livres numériques en France.
La pauvreté du catalogue.
C'est que le catalogue était quand même assez modeste. Il y a d'énormes efforts qui ont été faits par les éditeurs, c'est indéniable. L'essentiel maintenant de la production est sous format numérique, mais on n'y est pas encore. Et de deux, on a encore, de mon point de vue, et je pense que Élodie et Marie-Pierre en diront quelque chose, des problématiques de pricing, c'est-à-dire que...
Vous voulez dire de prix, tout simplement.
Oui, de prix, absolument.
En bon français.
Et donc le livre numérique maintenant est à peu près 30% moins cher que le livre papier, mais ce n'est pas encore le cas de tous les éditeurs. Et on a notamment des problématiques qui est qu'une fois que le livre de poche sort, s'il y a cette chance-là, on a encore des éditeurs qui mettent le livre numérique plus cher que le livre de poche, ce qui paraît un petit peu dingue. Donc je pense qu'on a encore des ajustements à faire de ce point de vue-là qui peuvent expliquer pour partie. Je voudrais revenir. Oui, Alban l'a dit, c'est-à-dire que selon les titres, il y a des titres qui font entre 8 et 10% des volumes et il y en a d'autres où c'est 1%, soit pour des questions de prix, soit pour des questions.
Et quels sont les types de livres numériques qui se vendent le mieux d'après votre poste d'observation?
Marie-Pierre Sangoua, ouais, à côté de vous, donc, qui représente le Kindle d'Amazon.
Je veux aussi que ces dames s'expriment.
Ne vous inquiétez pas, on fait le tour de la table.
Ce qui se vend le mieux, c'est les livres gratuits. Donc, indéniablement,
ça rapporte
c'est
beaucoup.
C'est effectivement un argument de choc.
Bah, en l'occurrence, nous, ça nous permet aussi de faire de l'acquisition client. Je pense qu'Amazon l'a compris avant tout le monde.
Acquisition client, c'est comme ça que vous les appelez.
Bah,
c'est sympa.
Oui, parce qu'on leur met à disposition gratuitement du contenu
de
gratuit. Et après, on leur amène une expérience de conseil. Et donc, de ce point de vue-là, en tant que commerçant, nous, j'assume complètement mon rôle de commerçant. J'ai 400 personnes et on fait un métier extraordinaire. Et à un moment donné, on a besoin de présenter l'offre à ses clients. Donc, encore une fois, ça me paraît tout à fait respectable. Mais encore une fois, on a chargé, par exemple, L'origine des espèces de Darwin, qui n'est pas non plus le livre le plus grand public. Voilà.
On peut le dire.
Et les gens le lisent.
Ce n'est pas le plus court. Non plus.
Enfin, ils le téléchargent.
Et ils le lisent.
Ça, vous pouvez le voir.
Mais en fait, on en discute notamment sur notre site communautaire qui s'appelle Entrée Livre, où les gens disent, écoutez, j'aurais jamais acheté l'origine des espèces. Et de fait, j'ai découvert, c'est très intéressant.
Si France Culture était une bergerie, eh bien, nous aurions fait rentrer le loup dans la bergerie. On vous retrouve à nouveau.
Merci de la comparaison.
Pour le Kindle d'Amazon, c'est gentil.
Exactement.
Comment est-ce que vous vous positionnez, donc, puisque vous êtes directrice du Kindle en France pour Amazon, Marie-Pierre Sangouard, comment est-ce que vous positionnez dans cet écosystème qui, au fond, vous accueille avec nécessité, mais parfois pas toujours une très grande sympathie?
Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le client. Donc, tout le travail que nous faisons, c'est au niveau du client, comme le décrivait d'ailleurs Guillaume tout à l'heure. Donc, notre objectif, nous, c'est de proposer à nos lecteurs, aux clients et aux lecteurs, un choix le plus large possible. Et dans ce cadre-là, bien entendu, on vend, comme vous le savez, nous sommes un libraire qui vend des livres papier, mais aussi du numérique, et on n'oppose pas les deux. Effectivement, le client doit pouvoir avoir le choix et un choix le plus vaste possible. C'est pour ça qu'on encourage et qu'on travaille aussi beaucoup avec les éditeurs pour accélérer la numérisation des fonds, puisque c'est un des principaux freins que nous voyons au décollage plus vertical du numérique en France. C'est le premier point. Juste pour vous donner 2 chiffres, quand nous avons lancé le site Kindle en octobre de l'année 2011, on avait 30 000 titres disponibles en langue française. Aujourd'hui, on en a 150 000, alors qu'on vend en version papier plus de 880 000 titres différents en langue française tous les ans. Donc, il y a une grosse demande. Nos clients, d'ailleurs, nous le signalent. On leur met à disposition un petit bouton sur le site qui dit « J'aimerais bien que ce livre soit disponible en version numérique. Dites-le à l'éditeur », ce que nous relayons de manière systématique.
Est-ce que nous utilisons, nous, voilà.
Exactement. On a un
exemple. Vous voulez dire que c'est automatique, l'email part tout de suite à l'éditeur?
Non, pas du tout. On consolide quand même pour que l'éditeur puisse aussi avoir une vision un peu intelligente intelligente de la chose. Et
ça
puis,
nous permet de prioriser aussi nos...
Exactement.
Et pour autant, le reproche qu'on vous fait le plus souvent, hein, à la fois au Kindle et à Amazon, c'est d'être dans un système fermé. C'est finalement, quand vous avez un Kindle, vous ne pouvez pas télécharger autre chose que des livres sur la plateforme d'Amazon.
Et non, pas du tout. Parce que
quand c'est un scoop, alors.
Mais c'est pas un scoop, c'est juste...
Il faut une réalité.
C'est une réalité, puisque quand vous achetez un e-book Kindle, vous pouvez le lire. Vous pouvez lire tout livre Kindle que vous avez acheté donc, sur la plateforme. Vous pouvez le lire sur une tablette qui tourne sur iOS ou Android, un smartphone, un Mac, un PC. Donc, vous êtes vraiment dans la liberté. Mais pour en revenir, effectivement, à la question décollage...
C'est pas un système fermé, donc.
Non.
Non. C'est écrit partout, hein.
C'est pas un système.
Bah, il y a deux personnes qui viennent s'évanouir autour de la table.
C'est un peu plus compliqué de lire un fichier acheté sur Amazon, enfin sur le Kindle, sur une liseuse Booking ou une liseuse Sony,
mais pas
etc.
Sur une tablette, mais pas sur une tablette, iPad, c'est sur, pas une sur un smartphone, etc.
Il faut rester dans l'environnement applicatif d'Amazon.
Voilà. Mais si on revient aussi au lecteur et au décollage du marché, il y a quand même deux choses que moi je voudrais vous indiquer qui sont vraiment très intéressantes. Nous, on constate que les gens qui achetaient du papier sur le site Amazon, sur notre site, du jour où ils téléchargent une application de lecture qui permet de lire ailleurs ou achètent un Kindle, leur achat de livres est multiplié par 3. Et ce qui est intéressant dans ces multipliés par 3, c'est que la consommation, l'achat de livres en papier reste stable, ce qui veut dire que la lecture numérique vient en plus. Donc c'est un point qui nous paraît important parce que ça nous permet de dire que la lecture numérique, c'est aussi un moyen de développer la lecture ou de redévelopper la lecture.
Marie-Pierre Sangouard, directrice de Kindle pour Amazon en France. Alors, sur ça encore, une question. Au fond, on a l'impression que le Kindle a créé le marché du livre numérique aux États-Unis, comme en son temps, l'iPod a créé la musique électronique. On a l'impression que ça ne se passe pas comme ça en France. Est-ce que c'est parce que les acteurs sont plus nombreux? Est-ce que parce qu'il y a des lois? Quelle est la raison, selon vous, selon Amazon, de ce retard dont vous parliez?
Alors, Amazon, effectivement, a créé Kindle en 2007 aux États-Unis. C'était la première initiative réellement portée par un investissement fort, une volonté affirmée de la maison d'édition de développer ces formats de lecture avec, effectivement, un support de lecture convivial aussi pour le client final. Donc, premier arrivé, premier qui prend la place, dans un environnement aussi américain très différent où la consommation sur Internet était beaucoup plus développée qu'en France. Hein. La consommation de livres sur Internet est encore relativement modeste grâce à la présence de nombreuses librairies physiques. Aux États-Unis, c'était un petit peu différent, les grandes distances, etc., moins de librairies, des territoires plus grands. Et acheter sur Internet des livres physiques, c'est facile de passer directement au numérique. Donc, pas de concurrents au démarrage. Les premiers, une prise, effectivement, de risque, d'investissement, un gros travail sur les expériences de lecture, un gros travail sur les catalogues. Et puis, après, en 2010, l'arrivée en Grande-Bretagne. En 2011, l'arrivée en Allemagne d'abord, en France, en Italie, en Espagne. Et on est arrivé, effectivement, en France, alors que d'autres acteurs avaient déjà commencé.
Et votre principal concurrent, vous diriez que c'est plutôt l'iPad, par exemple, ou que c'est plutôt d'autres liseuses développées, par exemple le Kobo avec la Fnac, ou que, comment vous vous situez par rapport à la concurrence?
Ce qui fait la richesse de la France, c'est justement la richesse de sa concurrence. Et aujourd'hui, on a effectivement des concurrents qui fonctionnent. Mais on est ravis d'avoir de la concurrence.
Vous applaudissez la diversité française.
Exactement. Et puis, quand on a de la concurrence, on est obligé de se dépasser.
Donc, et d'être, ça motive. D'être plus fort.
Voilà, exactement. Dans les concurrents, effectivement, on a
Kobo. Aux États-Unis aussi, vous avez de la concurrence.
Mais un peu moins forte.
Mais vous restez moins
forte. Surtout que Barnes & Noble a des difficultés et d'autres aussi. On a l'impression que vous étiez vraiment une des liseuses. Et en même temps, il y a eu, avec le Kindle Fire, d'autres produits, peut-être même une évolution future, quelque chose qui est plus déjà de l'ordre, un tout petit peu de la tablette. Ou comment est-ce que vous voyez cette évolution, s'il n'y a pas convergence au fond des appareils, avec cette idée qu'on ne va pas tous acheter, non seulement avoir un smartphone, mais aussi une tablette, une liseuse, etc.
Merci Frédéric, c'est une excellente question. Alors, ce n'est pas à peu près quelque chose comme une tablette. Effectivement, nous avons aussi lancé des tablettes, les fameux Kindle Fire, qui effectivement proposent un environnement de divertissement aussi pour les lecteurs. Le livre numérique, justement, ça permet aussi d'inscrire le livre dans la modernité et aux gens qui sont des gamers, des gens qui téléchargent télécharge de la vidéo, des applications, etc., de pouvoir aussi avoir ce choix.
De faire d'autres choses et pas simplement...
Exactement.
Dernière question sur ces outils-là. Le téléphone était petit, il a tendance à grossir. On a même des nouveaux formats qui sortent, qui sont des formats encore plus gros. Même le prochain iPhone sera plus grand. On connaît chez Samsung des téléphones beaucoup plus grands. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une évolution entre le téléphone d'un côté, le smartphone et la liseuse ou la tablette qui vont peut-être, au fond, devenir un seul objet à la fin?
Un seul objet, je n'en sais rien. Pour en revenir à la liseuse, pour nous, c'est vraiment un objet qui est dédié à la lecture et qui cible certainement des plus gros lecteurs et des lecteurs assidus qui ont envie d'un confort de lecture. La tablette et le smartphone, je pense que ce sont aussi des usages qui sont très différents. Nous, l'intérêt, c'est de pouvoir effectivement lire ces livres sur tous les différents supports. Ce qu'on constate aussi, des études ont récemment montré que les jeunes qui lisent du numérique lisent beaucoup sur smartphone. Donc c'est aussi une évolution intéressante et c'est pour ça qu'on y est présent aussi via nos applications Lecture.
Marie-Pierre Sangouard, donc directrice du Kindle pour Amazon en France. Alors, Élodie Pertuiseau, on ne vous a pas encore trop entendu. En l'occurrence, vous représentez ici le Kobo, qui est distribué, la FNAC, mais en l'occurrence qui s'occupe qui a comme liseuse, en l'occurrence, le Kobo. Je l'ai dit, c'est une entreprise canadienne rachetée par le géant japonais très actif dans le numérique depuis quelques années, Rakuten. Donc, quelle est la logique pour la FNAC? Vous aussi, vous êtes entre deux mondes, comme deux citres, comme d'autres ici, à savoir dans le livre papier et le livre numérique.
Pour la FNAC, c'est simple, c'est une très très belle opportunité de croissance, le livre numérique. Et je crois qu'on ne le dit pas assez, on s'interroge tous comment dynamiser le marché de la lecture, on a peur que les Français lisent moins, on sort des études, et en fait finalement on a un segment qui est en train de se multiplier par deux, tout simplement d'une année sur l'autre. La demande, on pense qu'elle est là.
Deux de pas grand chose, ça reste pas grand chose.
Je pense que si on aimerait bien que beaucoup de segments dans le marché du livre croissent à cette vitesse-là, et je pense que si c'était un domaine classique, je dirais le pratique, la bande dessinée,
on
qui avait ce rythme
plus
de croissance,
exactement,
je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'initiatives, et on le verrait vraiment comme un relais de croissance.
C'est vraiment perçu comme tel par les éditeurs. KPMG vient de sortir une étude là. 97% des éditeurs interrogés considèrent que le numérique est un levier de croissance pour leur chiffre d'affaires. Donc c'est très très c'est perçu comme cela. Donc c'est vraiment une voie additionnelle pour la lecture.
On a mis un petit peu de temps, on pense.
Oui,
je pense qu'effectivement, il faut assumer. Il y a eu un certain décalage dans l'entrée du livre numérique en France. C'est ce que disait De Citre, peu de catalogues en 2011 quand on a lancé le Kobo by FNAC à la FNAC. Ça a forcément ralenti un petit peu le développement du marché. Aujourd'hui, ça s'améliore.
Et pourquoi avoir développé votre propre liseuse? Parce qu'on se demande en fait si le lecteur, on ne va pas dire le consommateur ni le client, mais si le lecteur n'est pas un peu désorienté dans la profusion de l'offre. Alors c'est vrai que la concurrence, c'est toujours un aiguillon et c'est toujours positif, mais en même temps,
il y a différentes marques de lave-vaisselle et de réfrigérateurs.
Vous voyez la confusion entre les plateformes, les liseuses, les machins. On se dit, mais avec quelle liseuse
je vais vous expliquer, c'est très simple.
Guillaume De Citre.
C'est que moi, j'ai à peu près 1 million de clients et je voulais leur vendre du livre numérique. Sauf que, évidemment, Amazon ne me permettait pas d'utiliser la plateforme Amazon pour vendre du livre numérique. Bon. Et il y a des choses assez simples. C'est que j'adore Marie-Pierre, mais il y a quand même des choses qui, moi, me posent un problème.
Elle est
On la connaît bien dans le milieu du livre.
On la connaît bien dans le milieu du livre.
Mais, quand
aujourd'hui vous achetez un Kindle, vous ne pouvez pas aller sur docite.fr, acheter un livre numérique et lire sur votre Kindle. Ça pose un problème.
C'est très compliqué quand même.
Pareil sur fnac.com d'ailleurs. Vous ne pouvez pas aller sur fnac.com.
Voilà, parce qu'entre spécialistes, vous vous comprenez, vous vous y retrouvez. Mais quand on est néophyte, c'est incompréhensible.
C'est ce qu'on appelle un système propriétaire. Quand vous prenez un Kindle, vous faites des notes de lecture. C'est la propriété d'Amazon. Et quand vous voulez prendre vos bibliothèques et la métaille. Donc c'est un système complètement propriétaire. Tout ce que vous faites en termes de lecture est lu par Amazon. Vous achetez un Kindle Fire, tout votre historique de navigation est complètement connu par Amazon, ce qui n'est pas le cas de certains ordinateurs. Donc c'est une magnifique solution. J'étais un des premiers acheteurs de Kindle quand j'habitais en Californie, mais de fait, c'est une solution qui
n'est pas en
qui
France. En France, vous avez des deux citres.
Il y a des alternatives ouvertes.
Vous avez quoi
et
en France?
Je pense que il y a une solution qui s'appelle Tid, e-book alternative, qui est ouverte, qui maintenant est dans 250 points en France.
Ça, c'est la
qui est une liseuse Pocketbook qui va intervenir bientôt et qui sont des solutions plus récentes, mais ouvertes, qui permettent de faire des choses que j'espère Amazon fera. changera, parce que nous, on n'a rien contre Amazon, on voudrait juste qu'il s'ouvre.
Alors, juste une réponse, oui, parce qu'on est une radio pluraliste, donc on vous laisse répondre, Marie-Pierre Sansois, au nom de Kindle.
Alors, au nom de Kindle, effectivement, nous, on a lancé avec un format qui s'appelait Moby Pocket, qui a d'ailleurs été développé par une société française, la société Moby Pocket. Et pourquoi on a conservé effectivement ce format? C'est parce qu'en travaillant avec un format qu'on connaît à fond, sur lequel on peut travailler tous les jours, on fait de la R&D et on travaille sur les fonctionnalités qu'attendent nos clients, type effectivement l'accès à Wikipédia, type ce qu'on appelle X-Ray, qui vous permet de renaviguer dans un livre compliqué comme un Trône de Fer, par exemple, dans lequel vous vous perdez dans les personnages. Vous pouvez retrouver vos personnages sans avoir besoin de retourner à la page 1, à la page 2, tout est en direct. Vous avez la possibilité, par exemple, de vous créer votre catalogue de vocabulaire enrichi quand vous découvrez des mots que vous ne connaissez pas. Enfin, une richesse infinie qui correspond aussi à des modes de lecture différents.
Alors je vous propose maintenant d'avoir un certain nombre d'autres exemples, puisque c'est un marché très dynamique. On le voit ici, nous sommes en public au Salon du Livre de Paris à la Porte de Versailles, et il y a devant nous une multitude de stands dans un rayon qui s'appelle Lecture Numérique, E22, c'est son adresse, si on peut dire, au sein du Salon du Livre. Alors on a demandé à plusieurs autres acteurs, parfois différents, parfois plus petits, parfois d'ailleurs plus internationaux ou moins français, etc., de nous présenter aussi leurs produits ou leurs outils, afin de montrer cette diversité, à la fois les gros acteurs et des petits, des moyens, des indépendants. C'est aussi ça la diversité française du livre, non seulement du livre papier, mais aussi en l'occurrence du livre numérique. Alors à côté de moi, Michael Dahan, vous êtes PDG de Bookin. Oui. Alors en l'occurrence, votre stand est juste en face. Oui. Ça s'appelle Bookin, B-O-K-E-E-N. De quoi s'agit-il? Parce que souvent, on a des liseuses qui sont de chez vous, mais on ne le sait pas parce que vous êtes ce qu'on appelle sous marque blanche, c'est-à-dire vous les faites pour, par exemple, Carrefour ou d'autres structures comme Relais. Expliquez-nous comment ça marche.
Aujourd'hui, Bookin, c'est une société qui a 10 ans. Ça fait très longtemps qu'on est dans le livre numérique. Donc, ça fait très longtemps qu'on suit ces différentes rencontres sur le numérique. En fait, Bookin, nous proposons une solution aux libraires qui leur permet de vendre des livres numériques via une plateforme en marque blanche et aussi d'avoir leur propre liseuse.
En marque blanche, ça veut dire qu'ils mettent leur nom Carrefour, mais c'est vous en fait.
Globalement, c'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie la transition vers le numérique. Donc vous êtes libraire, vous voulez vendre des livres numériques. C'est peut-être compliqué pour démarrer. Ça a nécessité quelques années de développement, je crois, chez Amazon, quelques années de développement également chez nous, chez Thie également. Donc tout ça, ce qu'on essaye de faire, c'est de ramener toute cette connaissance, toute cette R&D vers les libraires pour qu'ils puissent rapidement transitionner et passer au numérique.
Alors, Michael Dahan, on ne le sait peut-être pas et vous n'en avez pas l'air, mais vous êtes une sorte de grand-père du livre numérique parce que vous étiez à l'origine dans le premier Cital. On s'en souvient presque d'un objet de musée. C'est le livre électronique lancé notamment par Jacques Attali. Il y a de ça de nombreuses années, finalement.
Tout à fait, oui. C'est aujourd'hui, quand on voit le premier appareil qu'on avait sorti en 2000, ça ressemble à un gros dinosaure. Donc, c'est assez intéressant. Nous, on a vécu...
Une moissonneuse-batteuse, quoi. C'est à peu près cette taille-là.
Oui, c'est à peu près ça, oui. Ça faisait un kilo. C'était assez énorme. Mais c'était l'idée. Ce qui est assez intéressant, c'est que dès ce moment-là, on avait fait exactement... Enfin, on avait développé exactement le même modèle que celui qu'on voit aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette idée que le marché du livre numérique met du temps à démarrer, moi, je le sais bien, puisque ça a mis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans tous les pays d'Europe, et notamment en Angleterre, en Allemagne, on voit une croissance relativement forte du marché qui se maintient et qui se développe.
Alors justement, en 10 ans, l'environnement a considérablement évolué. Il y a 10 ans, on fabriquait les premières liseuses, mais il n'y avait pas encore les tablettes tactiles, il n'y avait pas encore les smartphones. Et la question qui se pose quand même, c'est qui va l'emporter, quoi, dans la concurrence entre des liseuses, entre les tablettes tactiles et entre les smartphones. Je lisais un article de Zal Bilimoria, qui a occupé différents postes chez Microsoft, chez Netflix, et il disait que chez Netflix, justement, il avait vu que les fans de séries abandonnaient les tablettes tactiles pour visionner les films sur leur téléphone et notamment sur les smartphones 5 pouces. Donc, est-ce qu'on ne risque pas de voir les mêmes évolutions pour le livre numérique ?
Tout est possible. Donc moi, je... Non, mais tout est possible parce que...
C'est une page blanche, finalement.
C'est une page blanche, non, mais
vous
surtout...
Vous ne prenez pas trop de risques.
Non, non, mais... C'est pas un risque. Ce n'est pas un risque. Du moment qu'il y a de la lecture, on est content.
Quand vous fabriquez des liseuses en même temps...
Il y a un autre point, je pense que ça a été dit tout à l'heure. C'est un outil qui est dédié pour la lecture numérique. Donc c'est un peu comme quand vous achetez un casque de très, très bonne qualité pour écouter de la musique. Là, vous allez acheter l'outil qui vous semble le plus dédié, le plus adapté pour
la lecture
numérique.
Et vous-même, vous avez différentes qualités de casque.
Exactement.
Puisqu'il y a un modèle autour de 120 euros, c'est ça, de base.
Tout
et
à
puis
fait.
Un modèle à 180, si je me
exactement.
Trompe pas.
Exactement. On essaye de cibler et d'atteindre tout type de lecteurs. Les très gros lecteurs qui veulent un confort de lecture maximal. Les lecteurs qui veulent quelque chose de beaucoup plus mobile, de beaucoup plus accessible en termes de prix. Donc, on est vraiment dans cette approche-là. On n'est plus du tout dans tablette versus liseuse. Et puis, ça fait longtemps qu'on nous dit que la liseuse va disparaître au profit de la tablette. Quand un iPad est sorti, je me souviens, tout le monde avait un iPad sous le bras et nous disait bah, « Pour vous, c'est fini, on ne se revoit plus. »
Il y a des allers-retours plus complexes
voilà,
que ça.
Voilà, c'est un peu plus complexe. On est dans un marché technologique qui est assez complexe.
Michael Dahan, donc PDG de Bookin. Alors, un autre exemple qui vient de nous rejoindre, c'est Alexandre Chabaev, directeur France de Pocketbook. Alors, comment vous vous positionnez vous êtes un autre acteur de ce secteur. Comment vous vous positionnez par rapport à des concurrents géants, d'autres peut-être plus indépendants?
Donc, en fait, la société Pocketbook, c'est une société ukrainienne d'origine. Maintenant, ça appartient à un businessman russe qui s'est implanté en Suisse. C'est un peu compliqué. Mais nous sommes actuellement le quatrième mondial au niveau des quantités, au niveau des volumes des liseuses.
Quatrième mondial en Russie ou quatrième mondial?
Non, quatrième mondial dans le monde. Donc, avec 2 millions de liseuses vendues dès le début de notre activité en 2007. Et en France, c'est pas longtemps qu'ils ne sont présents ici.
Et alors, sous quelle forme? Quel est le catalogue?
Oui, en fait, nous présentons autant qu'un fabricant, des liseuses. Et nous travaillons avec des partenaires, notamment la société TI, qui est présente ici par M. Descitres, qui nous fournit le catalogue. Et Pocketbook est responsable pour les liseuses, pour le support. Et Guillaume Descitres et Société T, ils sont responsables pour le catalogue en français.
Et alors vous avez un truc extraordinaire, c'est que vous êtes waterproof. C'est-à-dire qu'on peut lire,
jusqu'à...
Ouais. Non, alors attendez, mieux que ça, jusqu'à un mètre de profondeur.
Oui, mais il n'y a pas de baignoire qui fait un mètre, donc déjà...
Oui, mais il y a des piscines, ça ne voudra pas...
Mais on peut lire dans son bain, et je confirme, on en a essayé.
Pourquoi jusqu'à un mètre de profondeur?
Et pourquoi, Mazam, vous ne le faites pas, vous hein?
C'est une bonne idée.
Ils ne veulent pas couler.
Hein. Oui, c'est vrai que c'est
ça vient d'où, votre idée de vouloir faire...
Parce qu'en Russie, on ne va pas beaucoup...
Non, pas du tout, en fait, c'est dans le monde, nous sommes très bon, c'est un peu des bijoux d'électronique, c'est un peu des bijoux et chacun il les considère comme quelque chose de très fragile et nous essayons d'ajouter une couche des sûreté sur nos appareils et ça s'appelle un standard IP57, il est protégé contre de l'eau et contre la poussière. Voilà, donc vous pouvez occasionnellement de le faire plonger mais pas plus qu'un mètre en profondeur, pas plus que 30 minutes.
On se méfiera. Nous sommes en public au Salon du Livre, dans Soft Power, c'est jusqu'à 20h. Dans la dernière partie de cette émission, puisque depuis 18h, on est sur l'avenir du livre, au fond, le livre numérique en particulier, c'est le sujet de Soft Power ce soir. On reviendra sur ces différents éléments, mais on reparlera aussi des formats, du piratage, et puis des risques d'abus de position dominante, sans oublier au passage les formats donc, d'exclusivité et autres, de mobilité, et pourquoi pas la recommandation et les algorithmes.
Like a kite, you learned to ride it, but I didn't know you spoke. close to letting go.
Like a gust of wind, you hit me off sometimes. Like a gust of wind, you push me back every once in a while. Like a gust of wind, you remind me there's someone I'm there who rushes in the air I need to power myself.
Vous êtes en Soft Power jusqu'à 20h en public depuis le Salon du Livre. À l'instant, c'était Pharrell Williams et Daft Punk, extrait de l'album Girls, A Gust of Wind. Nous sommes avec Alban Cerisier, secrétaire général d'édition Gallimard et Flammarion, la nouvelle entité commune, la holding, le holding, président également de la commission numérique du syndicat national de l'édition, Guillaume de Citre, président du groupe du même nom, Marie-Pierre Sangouard, qui dirige, qui coordonne le Kindle pour Amazon en France, Elodie Pertuiseau pour le Kobo de la FNAC, pour la FNAC, et puis d'autres interlocuteurs. Certains viennent de nous rejoindre dans cette émission consacrée à l'avenir du livre, et notamment le livre numérique. C'est un peu une spéciale Salon du Livre ce soir, depuis 18h jusqu'à 20h sur France Culture. Alors, on a évoqué déjà plusieurs questions. Parlons, et la table est ouverte, donc vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Parlons du livre, notamment de son prix, des prix des livres électroniques. Revenons peut-être un petit peu sur la question et le risque de piratage. La répartition aussi des droits aux auteurs. Qui veut commencer? Peut-être Alban Cerisier.
Alors, plusieurs sujets. Juste pour rebondir, on parlait tout à l'heure de la question des formats propriétaires et du caractère fermé. Je pense qu'on ne peut pas dire que le caractère propriétaire d'un format de livre numérique soit une garantie pour l'innovation. Pierre, je pense qu'au contraire, le fait de travailler sur des formats interopérables, on le fait aujourd'hui, tous les éditeurs français le font, beaucoup de libraires sont associés à une réflexion sur l'évolution du format standard que tout le monde utilise sauf Amazon, qui est le format e-pub que les lecteurs connaissent bien, les lecteurs numériques connaissent bien. On essaie de le faire progresser, il progresse, faire son enrichissement vers la vidéo, l'interactivité, et ça c'est un point très très important, on y est très impliqué, et de ce fait aujourd'hui on a plus de possibilités avec ce format interopérable en termes d'animation, d'enrichissement des livres qu'avec le format d'Amazon aujourd'hui. Donc là, on est quand même à quelque chose d'un peu paradoxal. Et là, j'ai un peu de mal à suivre Kindle sur ce point. Sur la question des auteurs, vous savez que c'est un sujet qui a beaucoup
travaillé. Qui est très tendu quand même.
Oui, en fait, il est beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup travaillé ces derniers mois. Avec les auteurs.
Une réforme du contrat.
Bah oui, on a quand même réformé le contrat d'édition. Je veux dire, c'est pas rien, quoi. Ça a été
mais c'est pas encore entré en application.
Oui, mais c'est pas de la faute des auteurs et des éditeurs. C'est le législateur qui a du mal à trouver un moment dans le calendrier parlementaire qui est très chargé en ce moment. Mais le contrat d'édition a été réformé. Les pratiques de rémunération des auteurs, des éditeurs, pardon, par les auteurs évoluent de façon très pragmatique. Et les pourcentages consacrés à la rémunération de la création augmentent pour le livre numérique et tiennent compte de cette modification du véhicule,
de l'œuvre. Et en même temps, on ne peut pas parler de rémunération des auteurs sans évoquer l'autre question qui est celle du piratage.
Oui, bien sûr.
Selon une dernière étude, sur 100 livres numériques passés en revue et disponibles sur les plateformes francophones, 50% auraient été obtenus de manière illégale. C'est une étude menée par YouBox. Alors qu'en est-il effectivement? Et ça pose quand même la question, ça pose une question de fond, quoi, qui est fondamentale.
J'en conviens, ça pose effectivement une question d'attractivité de l'offre, hein, ça on est sûr. Il faut que les catalogues soient là, il faut qu'ils soient à des prix attractifs, ils soient de qualité.
Surtout
ça,
quand
c'est
on ne possède pas vraiment le livre, mais qu'au fond, on simplement le loue, puisque c'est ça un livre électronique.
Oui, enfin, ça,
on le loue
ça,
parce qu'on ne peut
ça
pas
fait,
le donner,
ça fait débat quand
parce
on le télécharge.
Qu'on ne peut pas le garder.
On peut le donner dans le cadre de la copie privée, à vrai dire. Hein. Donc c'est encadré tout à fait par la loi, ça. Hein. Donc la copie privée est tout à fait autorisée dans le cadre du livre numérique. Voilà. voilà. Et elle est encadrée simplement par des mesures techniques, parce qu'on est obligé de le de faire, on peut difficilement le faire autrement. Voilà.
Il y a un réel moyen de lutter contre ce piratage ?
Alors oui, enfin, il y a un moyen, la loi nous le donne, et on est en train de le mettre en pratique, on en a beaucoup parlé dans le cadre du salon, au travers de la notification
et puis,
des
sites. Et
Élodie Pertuiseau. Il y a évidemment le prix, mais quand je dis attractivité, pour moi, c'est aussi ça, bien sûr.
Moi, je pense qu'il faut, vraiment se dire les choses. Le prix est essentiel pour le livre numérique. On voit que les clients, ils attendent un prix plus bas et nettement plus bas.
C'est-à-dire quoi ? Moins 30%.
Au moins 30%.
Un tiers du prix.
S'il n'y a pas 30%, ça ne marche pas.
C'est globalement ce qui se passe.
C'est maintenant ce qui commence à se faire de plus en plus.
Pour le poche.
Exactement. Pour le poche, on est souvent encore plus cher. Vraiment, on attend. Enfin, si on veut profiter de cette croissance, il faut encore que les prix baissent en France. On en est convaincu à la FNAC. Quand on fait des promotions, comme ça existe, il y a des ventes flash sur le livre numérique. Quand on baisse à 2, 3 euros, c'est extraordinaire ce qui se passe. Et on en fait encore trop peu.
Vient de nous rejoindre Elisa Boulard. Vous êtes d'immatériel.fr, directrice commerciale. Alors sur ce sujet, justement, vous avez évidemment quelque chose à dire.
Oui, bonsoir. Je voulais intervenir sur le prix parce que nous, pour nous présenter immatériel.fr, nous sommes distributeurs de livres numériques, c'est-à-dire que un peu à l'inverse de tous les interlocuteurs autour de cette table, nous sommes une entreprise qui est absolument invisible auprès des lecteurs, en fait, parce qu'on travaille vraiment en B2B, comme on dit en bon français.
Entre business to business.
Donc on est un intermédiaire entre l'éditeur et le libraire, donc on travaille notamment avec Amazon, avec deux sites, avec Bookin également. Et donc au niveau du prix, donc on commence à avoir quand même un volume de vente qui est suffisamment intéressant pour pouvoir faire des statistiques. Et on s'est amusé un petit peu à faire des statistiques au niveau du quel est le prix le plus rentable, quel est le prix qui plaît le plus au lecteur final.
Et alors quel est-il?
Et donc on a constaté que le meilleur prix en fait était de 9,99. C'est-à-dire que
on retombe sur le prix de Amazon.
Bah en fait,
c'est peut-être pas pour rien.
Que vous n'ayez pas dit vous non de
non,
Kindle
mais
Amazon.
D'abord, il faut distinguer effectivement la première édition du poche. Il faut distinguer aussi les initiatives nouvelles dans l'auto-édition qui marche. Il marche parce que les textes sont bons, mais c'est parce que aussi les auteurs qui s'auto-publient définissent des prix de vente attractifs, différents. Et on voit effectivement que ça marche. Je vous donnerai juste un chiffre. L'année dernière, sur le site Amazon, sur les 5 meilleures ventes numériques, qui inclut à la fois des ventes d'auteurs auto-publiés et d'éditeurs traditionnels. 3 venaient de l'auto-édition et le numéro 1, Alice Queen, un palace en enfer, est un titre qui s'est mieux vendu que les plus gros best-sellers du numérique de l'année dernière.
Élise Boulard, continuez peut-être.
Je disais simplement que le prix le plus rentable, a priori, n'est pas forcément très bas. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre généralement à ce que les gens numériques veulent des contenus à très bas prix. Or, ce n'est pas vrai parce que le prix bas n'est pas du tout synonyme de qualité. Et les gens qui lisent du livre numérique ont besoin d'être rassurés sur la qualité du livre qu'ils achètent.
En termes de légitimité, d'aura même du livre.
Et si vous voulez, comme le livre numérique, on ne peut pas le feuilleter comme un livre papier, on ne peut pas toucher la qualité du papier.
C'est ce qu'ils nous disent quand on leur demande.
On a dit le mot aura et légitimité, et Gallimard intervient tout de suite.
On ne se refait pas. C'était simplement pour dire que lorsque l'on demande au lecteur, c'est ce qu'ils nous disent précisément. C'est ce qui est dans l'étude qu'on citait tout à l'heure. Et donc, en termes de prix effectivement réalisé, de prix des ventes, je disais tout à l'heure 8,40 pour un prix vente moyen.
Donc Gallimard souhaite que tous les livres soient vendus à 8,40
désormais.
Non, mais
c'est un prix moyen de vente et on fait beaucoup pour répondre à Elodie, on fait beaucoup de promotions, on travaille avec les libraires, on travaille avec Amazon, on travaille avec la librairie de Citre pour avoir des campagnes de promotion à 3,99 sur du poche. Donc ça existe, le prix dynamique, il est pratiqué aujourd'hui par les éditeurs.
Guillaume de Citre.
En fait, il y a quelque chose de... Comment dire, on parle du livre.
C'est bien ça, c'est une émission sur le livre numérique.
J'ai perdu ma...
depuis le salon
c'est
du livre.
On va vous relancer.
Voilà, passons la parole à quelques autres.
Je suis scotché là. Ça une chanson.
C'est l'annonce de Gallimard des
premiers. C'est le troisième whisky.
C'est difficile d'intervenir. Voilà, ça y est, je sais ce que je veux dire. En fait,
il s'appelle Guillaume de Citre. Notez bien, c'est un libraire en France.
Une excellente librairie.
Il vieillit et de temps en temps, il a des absences. Les lecteurs de livres qu'on voit, nous, en moyenne, ils lisent un livre par mois, 10 livres par an. Et donc, quand vous avez un catalogue de 650 000 titres, alors on a parlé des 150 000 en numérique, l'enjeu, c'est pour partie le prix, mais ce n'est pas que le prix. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le livre passe de 20 euros ou 10 euros à 50 centimes qu'on va lire 50 fois plus, parce que mécaniquement, il y a un temps
incompressible. 20 euros et 50 centimes,
il y a un temps incompressible. C'est-à-dire qu'on a tous fait l'expérience d'un bouquin génial qu'on ne peut pas lâcher et d'un nanar qui coûte toujours trop cher. Donc, un des enjeux qu'on a, nous, en tant que libraire, c'est effectivement de conseiller le meilleur livre à la bonne personne. Parce qu'en fait, on peut très bien adorer Ruffin, on peut très bien adorer Musso, on peut très bien adorer Molière. Et ça, je pense que c'est tout l'enjeu du métier de libraire, avec un enjeu très fort, qui est de faire ce métier aussi bien en librairie que sur Internet, que sur une tablette. Il y a un truc, nous, qui nous a vraiment étonnés, c'est que quand on est dans une librairie de site, on a le choix sur à peu près 80 000 références. Quand on est sur Internet ou le numérique, on pourrait imaginer qu'on vend beaucoup plus de titres. Et on se rend compte, en fait, qu'il y a une concentration de l'offre sur le numérique. Pourquoi ? Notamment parce que quand vous avez une tablette, vous pouvez afficher à peu près 8 jaquettes sur une page. Et donc, une fois que vous avez passé 4-5 pages, vous avez vu une trentaine de titres, alors que dans un magasin, vous en voyez 100 ou 200. Et donc, tous ces usages-là, en fait, ils sont en train de changer. Donc, pour revenir...
Et pour, sur les usages, justement, et sur le prix, qu'en est-il des offres couplées, à l'instar de ce qui se fait dans la presse quotidienne ou dans la presse magazine ? Moi, je vous donne un exemple. Quand j'achète un livre, c'est vrai que j'aime bien encore pouvoir le mettre dans ma bibliothèque. En même temps, j'adore lire à 1 mètre de profondeur. Ouais. Donc, j'ai envie d'avoir, ou dans le train, j'ai envie de pouvoir lire dans le train ou à 1 mètre de profondeur et de pouvoir quand même de temps en temps revenir au livre, le mettre dans ma bibliothèque, le feuilleter, etc. Alors pourquoi il n'y aurait pas une offre couplée? J'achète le livre
papier. À titre personnel, ça fait 5 ans que j'adorerais qu'on puisse mettre ça en place. Alors, je crois que c'est assez compliqué au niveau droit d'édition, mais en l'occurrence, c'est un super plan.
Effectivement, aux États-Unis, on a lancé, nous, Amazon, une offre qui s'appelle Matchbook, qui permet effectivement aux lecteurs, aux acheteurs de livres papier, d'acheter la version numérique à un prix, pas à zéro,
mais
un
couplé, prix largement... couplé.
Donc,
il y a un sujet réglementaire en France sur ce point-là.
Voilà, exactement. Là, en France, sur la musique, par exemple, c'est ce qu'on vend sur la musique. Ça marche très, très bien quand on achète le CD d'avoir la version numérique.
Alors, avec nous, Philippe Belin, PDG d'Immanence. Alors là, on est sur un autre secteur encore. Peut-être que vous pouvez commencer par nous expliquer ce que vous faites.
Alors, nous sommes sur des approches un petit peu différentes, bien sûr pas sur le livre tel qu'il a été abordé jusqu'à présent.
Un peu quand même.
Un petit peu quand même, je vais vous citer quelques expériences sur lesquelles nous sommes. On travaille beaucoup avec un éditeur qui s'appelle Dalloz, qui est un éditeur juridique, sur des approches licence globale. C'est-à-dire que je suis abonné du 1er janvier au 31 décembre, j'ai eu accès à 1000 bouquins. Quand je me désabonne, je n'ai plus accès à rien. J'achète pas un livre pour le lire, j'achète un livre pour avoir une information. Puis donc j'ai besoin de pouvoir, non pas butiner, mais naviguer d'un ouvrage à un autre. Voilà, cette approche-là permet dans le domaine professionnel de ce type-là d'adresser des marchés comme des entreprises, avec des licences globales pour l'entreprise, pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Ce sont des marchés. Bon, Dalloz est une société qui fonctionne très, très bien.
Parce qu'elle est sur un secteur très précis du livre
sur
juridique.
Sur un secteur précis, absolument. Ou... C'est pour ça que j'ai bien précisé que
est-ce qu'il n'y a pas un avenir du livre, peut-être pas tout de suite, mais à moyen terme, disons, un peu comme la musique qui a basculé, on l'a vu d'abord en numérique et ensuite dans le format, disons, Spotify, Deezer, Qobuz, etc. C'est-à-dire un abonnement illimité qui permet d'accéder à tout, mettant qu'on paye une certaine somme chaque mois. Même chose pour le cinéma et les séries télévisées, avec l'arrivée peut-être prochaine de Netflix en France. Quid d'un système équivalent d'abonnement illimité pour le livre, qui évidemment poserait des problèmes d'une toute autre nature pour les éditeurs, notamment en cas de rémunération.
Alors, à propos de l'abonnement avec accès illimité, je pense que le point crucial, c'est l'exhaustivité du catalogue, en fait.
Elisa Boulard.
C'est vraiment ça qui est très important, parce que vous n'allez pas vous abonner et payer 10 euros ou 30 euros par mois pour consulter un catalogue qui n'est pas complet. Donc, je pense que c'est ça l'enjeu, en fait.
Celui de Netflix n'est pas complet non plus.
Il est quand même très vaste.
Il y a quand même très vaste. Celui Spotify n'est pas complet non plus, d'ailleurs. Mais disons qu'il est suffisamment exhaustif.
Ça pose la question du streaming par rapport au téléchargement aussi.
Oui, ça pose la question du streaming, mais disons qu'après, ce qui est important, c'est d'avoir des services ajoutés autour de la lecture ou autour de l'écoute de musique. Et si vous pouvez écouter tout ce que vous voulez sur n'importe quel support, ça, c'est un service qui est pertinent.
Mais ce qui est sûr, c'est que les modes de lecture vont changer d'une façon ou d'une autre. Ce qui est ce qu'on doit faire plus en France, c'est expérimenter, tester. Nous, on vient de lancer à la Fnac Jukebox sur la musique, qui est justement du streaming. Sur la lecture, il ne faut pas qu'on attende.
10 ans après tout le monde, mais bravo.
Et
ouais.
Avec tous les catalogues, mais c'est ça. Il ne faut pas attendre sur le livre. Et là aussi, pareil, quand on parle du bundle physique numérique qu'on évoquait, c'est vrai que se dire qu'il y a des problèmes juridiques, c'est quand même dommage.
Complètement sous, finalement. Enfin,
il y a quand même un
de consommer de manière effrénée de la musique ou des séries télévisées non-stop.
Voilà, et il y a quand même un grand paradoxe, c'est
là encore on oublie un peu le lecteur, parce que lorsque le lecteur, on lui demande s'il y a un besoin, s'il a une volonté d'avoir accès à des abonnements, il nous dit que non.
On pourra en reparler. Mais...
Non, mais il nous dit que non. Il nous dit que non. Donc, non, mais ça dépend. Je crois qu'il y a des approches sectorielles à avoir, c'est une évidence. Et puis, il y a évidemment la question de la rémunération de la création et de la prescription. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Donc, il y a une question d'équilibre à trouver par rapport à ce type de modèles commerciaux. Et aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé.
Philippe Belin pour PDG d'Immanence.
Oui, ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour l'instant, quand on parle de livres numériques, ce sont surtout des versions numérisées du livre. Immanence est assez impliqué dans l'édition scolaire. Qu'est-ce que c'est qu'un livre scolaire dans les temps qui vont venir? Ça n'aura plus rien à voir avec un livre. Le fait qu'on, quand vous ouvrez un livre scolaire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des activités qui sont certes reliées. Il a bien fallu imprimer et mettre dans des pages qu'on relie. Mais le livre scolaire demain, c'est plus ça. Il y a une porosité de plus en plus importante entre l'édition scolaire et le parasco, alors qu'avant, c'était des gens qui ne se connaissent pas. Bon, maintenant, il y a une intégration des deux. Il y a la photo, il y a la vidéo, il y a
des quiz,
etc. Qu'est-ce que c'est qu'un livre scolaire? Qu'est-ce que c'est qu'un livre numérique demain? Quand on parle d'Hip-Hop 3 aujourd'hui, on a des outils sur ces sujets-là. C'est essentiellement de la transformation de PDF dans un format Hip-Hop 3 plus proche du HTML. C'est super, mais c'est pas ça qu'attendent les lecteurs. Si demain on veut précisément proposer autre chose, c'est effectivement une ubiquité. Je suis sur mon smartphone, sur ma tablette, sur ma télé, je suis partout, je veux avoir accès à mon ouvrage. Il y a une notion de continuité. J'ai mon ouvrage, oui, mais un ouvrage de type voyage, voilà, c'est quelque chose qui vit. Quoi. Voilà.
Une question peut-être en complément de ce que vous venez de dire, à Marie-Pierre Sangouard pour le Kindle. On l'a évoqué tout à l'heure, mais brièvement, il y a la question de la recommandation. Amazon est relativement connu pour proposer d'autres livres. Le fameux, si vous avez aimé, regardez donc tel autre livre et achetez-le, pourquoi pas. Et la question de l'algorithme qui est caché derrière, bien que pas si caché d'ailleurs que ça. Comment ça marche?
Alors, il y a des gens très, très intelligents, très versés dans les mathématiques qui travaillent dessus, qui travaillent en fonction...
Mais les gens achètent des livres en fonction de vos recommandations?
Bien sûr, oui, puisque effectivement les
recommandations... De manière significative?
De manière significative, c'est effectivement quelque chose qui fonctionne très bien et qu'on accompagne aussi, puisqu'on est libraire et un vrai libraire, on accompagne aussi de recommandations
et
éditoriales.
Hop là, le message passe, exactement. L'air de rien. Hein.
Et le troisième point, c'est que ce que disait aussi tout à l'heure Guillaume, c'est que la recommandation peer-to-peer des clients à eux-mêmes, je le critique, est aussi extrêmement
important. Mais ces gens très intelligents, comme vous dites, ils réutilisent quand même des données qui sont des données personnelles.
Et non, des données d'achat.
Oui, mais enfin, ça veut dire quand même qu'on observe mes achats et qu'on me recommande en fonction.
Et potentiellement mon comportement de lecture.
Est-ce que vous avez commencé? Où est-ce que vous êtes arrêté?
C'est quand même une atteinte à...
Vous avez tourné les pages vite, ça c'est pour livre électronique?
Comme tout algorithme.
Les achats, c'est pas le nom des personnes, c'est pas l'âge du capitaine.
Mais vous savez bien qu'il y a un débat en ce moment sur ces questions-là et que vous n'y échapperez pas non plus.
C'est surtout que ces algorithmes, avec ces algorithmes, vous lisez toujours la même chose potentiellement. C'est vraiment aussi le libraire.
Pour la FNAC.
Et nous, on fait aussi des mathématiques à la FNAC, comme partout, mais on fait aussi surtout de la
librairie. Vous avez aussi des gens très intelligents.
On a aussi des gens très intelligents.
Les éditeurs en font aussi. Ils ont travaillé sur le web sémantique.
Est-ce que vous avez des algorithmes sur la plateforme de la FNAC?
On a des algorithmes, mais pas seulement. On croit qu'il faut rajouter vraiment le travail du libraire derrière, parce que sinon, vous lirez toujours la même chose. Vous pouvez avoir
des algorithmes encore plus intelligents.
C'est des algorithmes humains.
Exactement. Voilà, on a les algorithmes et on a les humains qui lisent des livres, des Amazoniens qui lisent des livres.
Les Amazoniens, on les appelle.
Voilà,
c'est là qu'ils lisent des livres et qu'ils les recommandent.
Alban Cerisier, le monde qu'on est en train de décrire là, donc désormais le critique littéraire est un algorithme certes intelligent, une recommandation, un abonnement généralisé, des livres que l'on peut lire comme ça, mais pas terminer, puisque de toute façon l'algorithme saura et la recommandation sauront quand est-ce qu'on l'a fini ou pas, à quelle vitesse on est allé. L'écrivain, du coup, va pouvoir s'adapter à ses lecteurs, etc. C'est un monde quand même... Gallimard est complètement sans dessus-dessous avec
Gallimard n'est pas sans dessus-dessous, tant s'en faut. Et il ne faut juste pas oublier que l'édition, c'est une industrie de l'offre. Ce sont les catalogues qui comptent. Voilà, leur intelligence, la qualité des auteurs, la façon dont ils sont construits et ce qu'il y a de significatif dans la constitution d'une maison d'édition, d'une marque.
Vous ne croyez pas à l'auto-édition, donc, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure?
J'ai jamais dit. L'auto-édition, elle existe, mais elle est aussi sur le web, tout simplement, l'auto-édition.
Mais elle sera marginale.
Elle me dérange nullement, l'auto-édition.
Et Philippe Bollin, il faisait allusion. Est-ce que vous développez de nouvelles écritures? Parce qu'effectivement, là, on parle de simplement d'un fichier PDF qu'on adapte. Est-ce que en projet, est-ce qu'il y a une demande pour de nouvelles écritures?
Alors,
que vous disent les usages?
Les usages, ils ne me disent rien. C'est les auteurs qui me disent s'il y a des nouvelles écritures. Voilà. Et il y a évidemment des auteurs qui travaillent là-dessus. On a présenté, encore une fois sur le cadre du salon, une merveilleuse réalisation de Casterman qui s'appelle Je vous ai compris et qui repense la narration en mêlant cinéma et bande dessinée. Voilà, ben ça c'est un exemple de nouvelle narration, c'est prodigieux, c'est magnifique. Voilà, donc on y est, on y travaille. Mais c'est les auteurs qui ont la clé là-dessus.
Non, je voulais revenir, effectivement, vous parliez de l'auto-édition, mais l'auto-édition et les éditeurs traditionnels ont des vies, peuvent avoir des vies communes. Nous, on a vu beaucoup d'auteurs auto-édités sur la plateforme Kindle. Jacques Vendroux, qui intéresse effectivement des éditeurs. On a Chris Costantini, qui a signé aussi avec un éditeur prestigieux. On a Agnès Martin-Lugan, l'année dernière, qui s'est traduite aussi par un succès en papier.
Vous n'allez pas nous donner tout votre catalogue, parce
non,
que sinon,
c'est
cette émission
catalogue.
Qui tire à sa
ce
fin...
Ce n'est pas mon catalogue.
Il faudrait qu'il puisse vendre sur toutes auteurs. Les librairies, ces auteurs. C'est
mais
ça, le problème.
Ces auteurs peuvent le faire.
On l'a dit, en tout cas, je vous remercie pour
ces nombreuses explications.
Moi, je vous donne un exemple quand même, parce que quand j'étais en Californie, chaque fois qu'on achetait pour 1 euro de livre, on avait 1 euro de transport. Et ça coûtait fort cher. La grande chance, et c'est pour ça qu'à l'époque, j'ai acheté un Kindle, c'est pour avoir du livre français au tout début, que je ne pouvais pas avoir. Et donc, le numérique, je pense que c'est un enjeu énorme, positif pour la langue française, parce qu'il y a déjà à peu près 500 millions de personnes qui lisent en langue française dans le monde. C'est censé monter quasiment à 1 milliard, notamment avec l'Afrique. Et il y a un problème, un des gros problèmes du livre, c'est que c'est lourd et ça pose des problématiques. Le livre numérique va être un enjeu très positif, très fort pour le livre en langue française, grâce à ça. Et on en vendra de plus en plus à l'étranger. Donc, je pense que ça, c'est très intéressant, y compris quand on voyage.
Alors justement, sur ce sujet, je vous propose comme une sorte de virgule et un mot de la fin aussi. C'est un écrivain, justement, argentin, Alberto Manguel, qu'on connaît bien pour ses romans, notamment, ou ses écrits sur le livre. Je vous propose de l'écouter précisément sur ce qu'il disait, ce qu'il dit de l'avenir du livre.
Dans notre monde moderne au rythme effréné, on a parfois l'impression que la technologie menace la lecture ou en tout cas notre façon de lire. Les ordinateurs et le web nous permettent de grignoter des données ça et là, de n'en consommer que des bribes. Sommes-nous en train de devenir de simples navigateurs de l'information? Des lecteurs qui, forts de nouvelles technologies, se contentent d'effleurer la surface du monde? Dans notre hâte de mettre au point de nouvelles manières de lire, ne risquons-nous pas d'oublier ce que représente l'art de la lecture?
Voilà une version, je dirais presque hip-hop d'Alberto Manguel, comme quoi on peut à la fois avoir la tradition du livre et la modernité de la musique. C'était 2 heures ce soir consacrées, tranche spéciale consacrée à l'avenir du livre depuis 18h, avec Olivia Gesbert en première partie d'émission, Agnès Chevaux dans la deuxième partie. Merci à toutes les deux. Merci aussi à nos différents invités, Alban Cerisier, secrétaire général d'édition, Gallimard Flammarion, président de la commission numérique du Syndicat national de l'édition, Guillaume Decitre, président du groupe Decitre, Marie-Pierre Sangouard, on a été quand même gentil avec vous. Hein. Bon. Voilà, vous allez content. Directrice du Kindle pour Amazon en France. Merci,
merci
d'être
beaucoup.
Venue ce soir. Elodie Pertuiseau pour le Kobo et donc la FNAC. Michael Dahan, PDG de Booking. Alexandre Chabaïev, directeur France pardon, de Pocket Book. Elisa Boulard, immatériel.fr. Philippe Berlin, PDG d'Imanaz. Voilà, c'était beaucoup, beaucoup d'invités. Cette tranche a été préparée ce soir par Mathias Mégy et Théo Corbucci. À la régie, Stéphane Poitevin et Pierrick Monsigny. Cette tranche de 18h à 20h a été réalisée ce soir par Vincent Abouchard. Nous étions en public depuis le Salon du Livre à la Porte de Versailles de Paris. Retour maintenant à la Maison de la Radio. Vous allez retrouver dans un instant Sophie Nolot pour Ça rime à quoi. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.